Sur Fréquence Mistral, on fait un petit saut dans le temps. Mardi 14 juin 2022, une sonde, la sonde 2.0.2, a été envoyée dans l'espace depuis Saint-Michel l'Observatoire. Et c'est un projet qui est porté par la compagnie Conflagration. Elsa Mingo, vous êtes membre locomotive de cette compagnie. Alors conflagration, on peut le définir par bouleversement de grande portée, c'est un mot français, mais c'est aussi le nom d'une compagnie marseillaise. Alors une compagnie qui est née en 2010, qu'est-ce qu'elle fait cette compagnie, qu'est-ce qu'elle porte ?
La conflagration, depuis une douzaine d'années maintenant, porte essentiellement des créations dites contextuelles. On dit création art de rue ou performance. Ce sont des créations qui ont toujours vocation à être à un endroit donné, pour un moment donné, avec un groupe donné. On est spécialiste des projets sur 6-8 mois, sur un territoire ou avec un groupe de gens, pour jouer une fois ou deux fois maximum.
Et en 2022, avec cette compagnie, vous avez un projet qui fait écho à l'histoire il y a 50 ans, qui fait écho à 1972, une année où la NASA envoyait la sonde Pionnière 10 dans l'espace. Qu'est-ce que vous savez de ce fait historique-là ?
Donc en 72, il y a eu un programme de la NASA, le programme Pionnière, où à l'époque, on a envoyé deux sondes, quoi, en 72 et en 73, Pionnière 10 et 11. On a envoyé une sonde en 72 qui avait pour vocation de faire la première reconnaissance de l'univers et de sortir en dehors du système solaire. Il faut savoir qu'à l'époque, on est après 69, premier pas sur la Lune. On est dans les euphories, dans l'euphorie des années 70 avec une ouverture totale, 2001 l'Odyssée de l'espace, tout est possible. Et en 72, quand la NASA décide d'envoyer cette sonde pour faire une reconnaissance du système solaire et puis pour en sortir, elle s'est quand même dit, tiens, et si cette sonde qui sort du système solaire rencontrait des extraterrestres ? Alors elle a payé un think tank de 6 personnes pendant 6 semaines pour réfléchir à un dessin qui allait être gravé sur une plaque en or, qui allait être vissée elle-même sur cette sonde. Et ce dessin avait deux missions. La mission principale qui était représenter l'adresse de la planète Terre dans le cosmos, afin que d'éventuels extraterrestres qui tomberaient sur notre sonde dans des années-lumière sachent d'où elle a été envoyée. Et la deuxième vocation de cette plaque, c'était de représenter l'humanité, parce qu'on s'est dit, tiens, si ces extraterrestres dotés d'une intelligence égale ou supérieure à la nôtre reçoivent cette sonde ou la découvrent, comprennent l'adresse de la planète Terre dans le cosmos et débarquent chez nous, pour pas qu'ils parlent aux arbres ou aux bagnoles, hein, pour qu'ils nous parlent à nous, fallait représenter l'humanité. Et donc c'est ce qu'a fait la NASA en 72 en réunissant un think tank de 6 personnes dont Carl Sagan, éminent astrophysicien de l'époque, pour réfléchir à ces dessins qui ont donné lieu à une plaque bien connue.
Une plaque qui représente le corps d'un homme et d'une femme nue.
Tout à fait. En fait, sur cette plaque, il y a plusieurs choses. Il y a en bas à gauche différents petits points qui représentent les planètes de notre système solaire, avec une flèche de l'endroit où est sortie la sonde du système. On a aussi une espèce de micro-soleil, en fait. Oui, c'est notre étoile à nous, qui s'appelle le Soleil, l'étoile qui est la plus proche de nous, avec des petits traits qui représentent un placement scientifique par rapport à des pulsars. Il y a tout un tas de lectures extrêmement scientifiques et complexes que la plupart des êtres humains, même 50 ans après, sont incapables de chiffrer. Et on a sur la droite de cette plaque un homme et une femme représentés nus. Alors il y a quand même peu de chances que si des extraterrestres débarquaient demain, on soit nus. Enfin bon, voilà. Et cette plaque a été assez décriée parce qu'effectivement, sous couvert d'une volonté universaliste de représenter l'humanité, c'est quand même très, très américano-centré, états-unien, voilà.
Et alors, votre idée de projet, c'est de reproduire ce fait historique de nos jours, mais d'y réfléchir avec un think tank que vous avez pensé, vous, avec des détenus qui font partie d'une structure d'accompagnement vers la sortie, SAS, à Marseille. Pourquoi vous êtes tourné vers le milieu carcéral pour y faire émerger votre projet de recréer une sonde ?
Alors, l'idée première, 50 ans après, c'était de refaire ce think tank-là, mais en partant du principe que nous ne sommes pas des éminences grises de la NASA, nous ne sommes pas, moi et moi y compris, je ne suis pas astrophysicienne, mais tiens, qu'est-ce qui se passerait 50 ans après si on se posait les mêmes questions que se sont posées ces think tanks-là? Et qu'est-ce qui se passerait si on donnait le pouvoir et la parole de nous représenter, nous, humanité, non pas aux grands savants, mais à des personnes lambda, le Kidam, vous, moi, ou peut-être même à des personnes qui sont déjà en quarantaine de notre société, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà à part et qui, selon moi, sont peut-être celles les plus à même d'avoir un regard sur notre société telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'ils en sont déjà en partie détachés.
Retirés. La question philosophique qui est soulevée par votre projet scientifique, c'est de savoir comment représenter l'humanité. Dans un précédent interview, vous ne saviez pas encore quelle tête aurait la sonde 2.0.2 choisie du coup par c'est un groupe de 8 détenus, c'est ça?
Oui, à l'origine ils étaient 8 et au final ils étaient plus que 7 parce qu'il y en a un qui a, voilà, c'est le parcours carcéral qui a dû changer d'établissement.
Et alors, cette détenue, vous saviez seulement que cette sonde, elle ne pouvait pas excéder 1600 grammes. Et l'hésitation parmi le groupe de réflexion portait sur plusieurs objets et matériaux. Vous parliez une petite liste d'une représentation de l'univers, d'eau, d'images d'un être humain, d'une dent, de cheveux, d'un mode de transport, de lumière ou d'un végétal comme un bouquet de fleurs qui symboliserait un message de paix. Aujourd'hui, vous allez pouvoir nous dire ce qui a été choisi. Alors, qu'est-ce qui a été envoyé? Quelle sonde, quelle forme prend cette sonde?
Alors, cette sonde, elle a une forme plutôt conique, je dirais. Elle doit faire à peu près 50 cm de haut, peut-être 60. Donc, assez profilée et aérodynamique. Nous, comme on n'avait pas, comme la NASA, une sonde à envoyer et un message à dessiner sur une plaque, on a carrément créé l'objet. Donc l'objet devait représenter ces mêmes questionnements qui étaient l'adresse de la planète Terre dans le cosmos. Qu'est-ce qui nous définit, nous, terriens, et qu'est-ce qui représente l'humanité? Pour la planète Terre, ce qui a été choisi, c'est il fallait que la sonde émane, fasse émettre, émette, pardon, de la lumière, parce qu'on est la seule planète qui, à minima dans notre système solaire, en tout cas dans le monde connu aujourd'hui, même dans les exoplanètes, on est la seule planète qui émet de la lumière, même dans la nuit, puisqu'on a l'électricité. Alors que les autres planètes ne sont visibles que lorsqu'elles sont éclairées par une étoile. Ça, c'est une chose. Donc pour ça, une partie de la sonde a été entièrement pensée avec un matériau qui, lorsqu'on le façonne, par fragmentation des rayons lumineux, je vous passe le détail, crée un effet phosphorescent. C'est-à-dire que la sonde en elle-même, effectivement, elle fait émettre d'une manière complètement mécanique, simplement par les rayons du soleil qui traversent, elle émet de la lumière. Deuxième chose, on s'est posé la question de qu'est-ce qui représentait l'humanité, et dans le cas de nos recherches, il y a une archéo-anthropologue, Lola Bonabel, qui est venue bosser avec nous, et on s'est posé les questions de qu'est-ce qui reste d'une civilisation des milliers d'années après. Et en faisant de l'anatomie comparée, etc., etc., ils en sont arrivés par tout un tas de recherches et ils ont donc décidé de choisir une dent et des cheveux. Même si les cheveux, visiblement, selon l'archéo-anthropologue, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc on a trouvé une dent. Il y a quelqu'un qui nous a donné une dent. La designeuse a coupé une mèche de cheveux, ça en a eu. Cette sonde, elle est conique, elle est en deux parties. Il y a comme un chapeau qu'on peut détacher, qui est transparent, afin qu'on puisse voir à l'intérieur de l'objet. Le but, c'était de se poser aussi la question de la maniabilité de l'objet. On ne sait pas quelle est la forme de vie supposée ou réelle qui pourrait éventuellement tomber sur notre objet. Mais alors, est-ce qu'elle aurait des mains, pas des mains, des yeux, pas des yeux, un nez? Voilà, la question de c'est quoi la vie? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un mollusque ou que sais-je?
Donc que cet extraterrestre puisse se saisir de l'objet et
absolument
voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Absolument. Et à l'intérieur, il y avait le végétal, ils se sont arrêtés sur un brin de lavande. Il y a un des gars qui a proposé d'envoyer de la lavande parce qu'il estimait pour lui que c'était à la fois ça faisait appel à l'odorat, mais aussi ça faisait appel à quelque chose de très local.
Provençal.
Effectivement, c'est hyper intelligent parce qu'avec ce végétal-là, on a trois choses, trois éléments sur lesquels on bossait, qui étaient comment dire d'où on vient. Effectivement, la lavande sur la planète Terre, il n'y en a pas à des milliards d'endroits, c'est quand même c'est très localisé. Faire appel à un de nos cinq sens, parce qu'on se dit, tiens, l'autre, E.T., quel qu'il soit extraterrestre, l'autre, comme il est, on n'a pas aucune idée de qui tu pourrais être ou comment tu pourrais être. Donc on peut partir que de nous. Donc partons de nous et de nos cinq sens. Donc ça fait appel à l'odorat. Et il voulait absolument parler du végétal parce que le développement de la vie sur Terre, tout ce qui est lié au végétal, c'est une des caractéristiques propres de notre planète, à minima dans nos systèmes solaires.
Alors le résultat, donc cette sonde, c'est le résultat de plusieurs ateliers avec différents scientifiques, designers, artistes qui sont venus du coup au SAS accompagner le groupe de réflexion pour faire émerger cette idée et cet objet-là que vous venez de décrire.
Tout à fait, ouais. On a travaillé pendant 6 semaines à raison de 2 séances de 3 à 4 heures chacune par semaine. Et à chaque fois, il y avait un invité différent. Puisque, comme on le disait, nous ne sommes pas les grands savants, on se fait accompagner par des grands savants qui ont, au-delà de l'obligation, peut-être l'envie et le savoir-faire de la vulgarisation scientifique. Donc on a été accompagné par Faustine Cantaloub, qui est chercheuse en astrophysique au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, où en plus, une partie de la sonde pionnière, il y a 50 ans, avait été pensée. On a donc eu une permission de sortie, on est sorti avec les gars, on est allé visiter le LAM, donc entouré de personnes dont le boulot c'est de dessiner ou de représenter des exoplanètes qu'on ne voit même pas. Ça paraît de la science-fiction, mais c'est leur métier, c'est passionnant. Dès qu'on se pose sur ces questions-là, de toute façon, ça nous dépasse complètement. Les distances et le nombre sont tellement pharaoniques que c'est vertigineux tout de suite. On s'est fait accompagner par Lola Bonapel de l'INRAP, de l'Institut National d'Archéologie Préventive, où là, on a pris la position de l'extraterrestre supposé à des années-lumière, qui serait, par le biais de cette sonde, l'archéologue de notre civilisation, puisqu'il découvrirait ça, qu'est-ce qu'il pourrait en déduire de notre civilisation. On s'est posé cette question-là. On a bossé avec un cartographe paysagiste, Julien Rodriguez, avec qui on a travaillé vraiment sur représenter l'humanité au sens de collage. Les gars voulaient vraiment qu'il y ait des images, appel à l'image, l'image. Donc lui, il a fait tout un travail d'images et d'imagerie où ils ont, par le biais de collage, tenté une représentation de plusieurs points de vue de ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Et ces images-là ont été scannées, full HD, etc. Et puis elles ont été gravées tout autour de la sonde. Voilà, on a travaillé avec Maud Benest, designeuse, qui est ici Marseille et qui a entièrement
conçu l'objet
à 100% au service de leur proposition. Est-ce que l'objet il est opaque et transparent, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, des contraintes techniques évidemment, et puis pour tenter de réaliser au mieux leurs idées.
Et alors cet objet, il a été envoyé dans l'espace depuis Saint-Michel-l'Observateur, on le disait, mardi 14 juin 2022. Comment ça s'est passé cet envol? Ça a été envoyé avec un ballon météorologique. Qu'est-ce que c'est un ballon météorologique? Comment on peut se le représenter?
Alors, un ballon sonde, c'est un ballon qui, quand on le gonfle pour une charge utile de 1600 grammes, ça pourrait faire, je dirais, 2,50 m, 3 m de diamètre.
Pour 1600 grammes?
Ouais. Donc, on a d'ailleurs bossé là-dessus avec Jean-Pierre Orétégui, prof de maths, physique, sciences. On a bossé sur la poussée d'Archimède, etc., pour savoir la masse volumique qu'il fallait d'hélium dans notre ballon pour qu'il parte, etc., etc. On a fait les calculs de trajectoire. Donc, on a gonflé ce ballon au-dessous duquel on a accroché notre sonde. Pour cet envol, on a été accompagné par le CNRS d'Orléans, Gilles Chalumeau et Stéphane Chevrier, qui sont descendus d'Orléans car eux, leur boulot habituellement, c'est d'envoyer des ballons sondes qui ont pour vocation de faire plusieurs mesures dans la stratosphère de comment c'est de la météorologie de l'espace, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, à quelle pression sommes-nous soumis, etc. Donc nous, on a gonflé le ballon, on a accroché la sonde, et puis elle est partie. Bien sûr, cet envol, il est complètement symbolique, parce qu'on n'a pas du tout les moyens de la NASA, on n'a pas, pas envoyé avec une fusée.
Vous n'allez pas pouvoir la localiser. Là, vous ne savez pas
si
où elle est.
Ah si, maintenant, je sais très bien où elle est. Elle a été récupérée. On est allé la récupérer sur site, à l'endroit où elle est retombée.
Elle est retombée.
Tout à fait. Alors, la première, c'est la deuxième qu'on fait. La première n'est jamais revenue. La deuxième est retombée.
Vous allez tenter un nouvel envol ?
Non. On va la garder, on va l'exposer. Et il y a plusieurs rebonds qui sont prévus, notamment en partenariat avec la Diagonale Paris-Saclay, etc. Ces ballons-là, ils n'ont pas vocation à sortir de l'attraction terrestre. On est juste en ballon à hélium, c'est en ça que c'est vraiment un moment symbolique. Et pour créer ce moment symbolique, c'est un moment où convergent toutes les attentions. On a créé pendant 5 jours à Saint-Michel Observatoire, au centre d'astronomie, où on a été accompagné par tout le monde. On a créé un moment spectaculaire avec des musiciens qui étaient en résidence pendant une semaine. C'était un gros moment, une très grosse charge émotionnelle, et est parti. J'ai presque envie de dire que le fait qu'elle soit retombée, qu'on soit allé la chercher, c'est presque anecdotique.
Vous l'avez retrouvée quelques jours après ou...
Totalement intacte, 3 heures après. C'est normal, c'était nos prévisions, on le savait. On savait vers où elle allait tomber. On savait très
bien. Et il y avait un point GPS.
Il y a un tracker GPS à bord, il y a une GoPro, et on avait mis aussi des capteurs température, lumière et pression. Ça, c'est pour nos données personnelles à côté, parce qu'on fait aussi un croisement. Tout le long, c'est une recherche scientifique, donc ça, c'était le choix aussi avec les gars. Et on a récupéré la GoPro, et donc là, j'ai pas encore vu les images, mais on va jusqu'aux confins de la stratosphère, proche de à la limite de l'espace, à la rotondité de la Terre. Donc on a des images de la Terre.
Et il y a des personnes du groupe de réflexion de la SAS qui ont pu être présents, ou alors qui vont voir les images a posteriori de cet envol ?
Bien sûr. Alors en fait, donc les gars de la SAS, ils ont pu sortir. Ils ont eu une permission de sortie au centre astro pour la journée du 14, où il y avait un gros événement, un accueil du public, etc. On a fait l'envol et après on a même pu aller au planétarium, etc. Là, eux maintenant, ils sont de nouveau en milieu carcéral à la SAS. Mais il va y avoir des rebonds. Il y a notamment un festival risque Art et Science en mars 2023 où seront présentés 2 films. Celui de la sonde 1 et celui de la sonde 2. Le film de la sonde 1, on a un documentariste qui nous a suivis à Fleury-Mérogis pendant 1 mois et demi et qui là est en post-prod. Et la sonde 2, à la SAS, celle dont on est en train de parler, a été filmée par d'autres gars qui sont actuellement à la SAS et qui passent un diplôme de technicien du cinéma avec l'association Lieux Fictifs, qui travaille au Beaumet depuis plus de 30 ans et qui fait passer des diplômes de technicien du cinéma. Donc il y a des gars qui ont pensé la sonde et puis il y en a d'autres qui, en formation, ont filmé. Et ils passeront au montage à partir de septembre.
Alors, vous aviez déjà monté un projet de lancement, donc 2.0.1, on est au 2.0.2, vous envisagez le 2.0.3 ?
Non, ça y est, c'est fini, je passe à un autre projet. Là.
Et alors, donc cette sonde est retombée, ça aussi évince la problématique de la pollution spatiale, donc finalement, c'est pas un objet en plus dans l'espace. Est-ce que votre réflexion s'est portée aussi sur cette pollution-là ?
Absolument.
Parce que Science et Avenir, le 5 juin 2020, estime quand même le nombre d'objets en orbite autour de la Terre à 150 millions de débris, environ 8000 tonnes, soit le poids de la Tour Eiffel. Et donc ça inclut des objets entiers, comme des satellites désactivés, des capots, des sangles, mais surtout des fragments de toute taille, de quelques centimètres de diamètre à plusieurs mètres de large. Et c'est énorme, et en augmentation. Mais donc, cette sonde-là n'a pas rejoint tous ces objets en orbite.
Non, c'était le but. La première séance a été là-dessus. Qu'est-ce qu'on a déjà envoyé ? Qu'est-ce que l'humain a déjà envoyé dans l'espace ? Qu'est-ce qu'il y reste ? Parce qu'il faut savoir qu'un petit boulon de la taille du plus petit boulon qu'on puisse avoir, quand il est en orbite, projeté là-haut où il n'y a rien pour le freiner, la densité de l'air n'étant pas la même, ça crée des dégâts. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, envoyer quelque chose dans l'espace est extrêmement complexe à cause de tous ces débris. Et nous, l'objectif, c'était zéro déchet. Donc c'est pour ça qu'on est allé la récupérer. C'était prévu pour.
Eh ben merci beaucoup Elsa Mingo d'être revenue sur cet événement qu'on n'a pas pu voir de nos propres yeux, mais qu'on imagine bien maintenant que vous avez décrit tout cet objet et ce projet-là porté par la compagnie Conflagration. On peut voir tous vos autres projets aussi sur votre site internet, peut-être le citer.
Laconflagration.com.
C'est facile. Et on se quitte avec un titre de Jean-Michel Jarre, Oxygène, qui nous porte un peu en apesanteur.